France Culture.
Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore la foi?
Bonjour, Jean-Luc Gadreau sur France Culture pour Soleil, rendez-vous protestant, une production de la Fédération protestante de France. Après vous avoir fait partager la semaine dernière le culte en direct de l'Assemblée du désert à Mialet dans le Gard, toujours d'ailleurs disponible évidemment en podcast sur l'appli Radio France ou sur le site de France Culture, je vous propose ce matin de prolonger autour de la thématique de cette année. L'esprit souffle où il veut, 1525-2025, 500 ans d'une extraordinaire diversité. Une émission qui est enregistrée le samedi après-midi de cette assemblée avec les deux intervenants des conférences du dimanche après-midi sur place dans la bergerie du musée du désert. Et donc avec moi Sébastien Fatt, historien, chercheur au CNRS, rattaché au groupe Société, Religion, Laïcité, et Neil Blau, professeur émérite d'histoire de l'Église à la Faculté libre de théologie évangélique à Vaux-sur-Seine, et puis également ancien directeur du Centre Mennonite de Paris. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Nous fêtons donc cette année les 500 ans de l'anabaptisme. Nous avions d'ailleurs eu l'occasion de faire une émission ensemble, Neil, à Strasbourg, à la médiathèque protestante.
Effectivement, oui.
Et par voie de conséquence, ce sont 500 ans d'une autre manière, finalement, d'être protestant, en quelque sorte. Au cœur de cette commémoration, il y a la diversité, les multiples couleurs qui s'expriment au sein d'une même famille. Alors avant d'aller précisément sur les points que vous allez développer dans vos conférences respectives pour cette Assemblée du désert, j'aimerais bien que vous réagissiez rapidement à cet aspect, la diversité du protestantisme. Sébastien, comment vous la percevez, vous ?
Alors je dirais ça part vraiment dans tous les sens. Et je crois que pour nos auditrices et nos auditeurs, c'est un peu l'impression qu'on peut avoir aussi quand on découvre toutes les étiquettes qui font le protestantisme. Mais en même temps, c'est aussi l'image de l'arbre. Et ça me fait penser à l'affiche qui a été choisie pour cette édition 2025. L'esprit souffle où il veut, c'est un arbre magnifique avec une arborescence absolument extraordinaire. Donc ça part dans tous les sens peut-être, mais en même temps, il y a une sève partagée, il y a un tronc commun.
Et d'ailleurs, dans l'affiche, il y a des gens qu'on aperçoit qui marchent dans ce tronc qui monte vers ses multiples branches.
Absolument.
C'est un peu l'idée.
Absolument.
Et Neil, de votre côté, vous ?
Voilà, donc la diversité, donc c'est une histoire d'abord de vision, de schisme, de polémique, de rejet, et avec le temps, des rapprochements différents, variés. Et je pense qu'ici, on est dans un mouvement de rapprochement, bien que dans la grande famille protestante évangélique, je dirais que ce n'est pas le cas de tout le monde.
Voilà. Ouais. Alors, on reparlera des difficultés. C'est vrai que souvent, une nouvelle église naît parce qu'on... Finalement, on se dispute un peu, on n'est pas tout à fait d'accord. Et c'est comme ça qu'un nouveau mouvement... C'est un peu la vie qui est comme ça, généralement, dans plein de domaines.
Oui, mais nous avons une conception de l'Église qui permet cela aussi.
En tant que protestant.
Oui.
Oui, ça offre cette possibilité d'une certaine manière.
C'est ça. Comme aurait dit le sociologue Jean-Paul Villem, bien mieux que moi, le protestantisme, c'est un christianisme qui a déplacé le cœur de la légitimité d'une institution vers un texte. Ouais. C'est plus le rattachement à une même institution qui fait le christianisme, c'est vraiment le rapport au texte. Et à partir de là, il peut y avoir toute une forme de créativité institutionnelle, toute une diversité d'étiquettes confessionnelles. Et le protestantisme aujourd'hui le montre très bien.
Alors vous intervenez tous les deux sur cette thématique. Donc, bien sûr, l'esprit souffle où il veut, 500 ans d'une extraordinaire diversité, en développant des sujets très différents et en même temps très complémentaires. Neil, vous avez choisi dans ce haut lieu de mémoire huguenote de présenter un tableau des liens entre ces deux communautés minoritaires, huguenote et mennonite. Et puis, vous, Sébastien, d'aller plus au cœur de la pensée anabaptiste pour observer les tensions qui se jouent rapidement entre tentation de prendre le pouvoir politique, option de société alternative et prophétique, sujet d'ailleurs, comme on le verra, qui nous plonge à la fois dans les origines, mais profondément aussi dans l'actualité. Alors on va aborder ces sujets avec vous deux un peu plus, sans faire évidemment la conférence qui sera donnée ici, mais en discuter ensemble. Neil, j'aimerais commencer avec vous. Pour vous, quels sont ces liens qui unissent Huguenot et Anabaptiste? Il doit y avoir du positif et du négatif, forcément.
Voilà, donc on peut, dans un premier temps, parler d'une origine plus ou moins commune à Zurich avec Zwingli, c'est-à-dire le Zwingli qui est un peu à l'origine de la tradition réformée, qui passe par Strasbourg et puis Genève et ailleurs. Et donc il y a un rassemblement autour de Zwingli à Zurich, mais qui aboutit à un schisme en 1525. Et à partir de ce moment-là, les liens ne sont pas très faciles. Hein. C'est plutôt des liens de rejet de chaque côté, des liens où il y a persécution, il y a l'obligation de vivre en clandestinité.
Il va y avoir des morts, même au cœur de tout ça. Il y a des moments compliqués et difficiles.
Effectivement.
Quelques horreurs, peut-on dire, d'une certaine façon.
Oui, mais c'est une période très compliquée, très complexe. Il y a déjà les tensions issues des protestantismes en train de naître. Il y a le soulèvement paysan, 1524 et 25, le mouvement anabaptiste qui naît en 1525. Et puis, quels sont les liens entre Luther, Zwingli, les paysans, l'anabaptisme? Je dirais qu'aujourd'hui, on arrive à mieux discerner ces liens qui sont compliqués. Voilà.
Donc au début, c'est difficile. Après, comment les choses évoluent?
Il y a une période assez longue de séparation. Mais je dirais que dans un deuxième temps, je vais parler d'une rencontre au XVIIe siècle dans les Vosges, à Sainte-Marie-aux-Mines, où il y a eu une cohabitation plus ou moins paisible entre réformés, anabaptistes, luthériens et catholiques, donc un lieu assez extraordinaire au XVIIe siècle.
On pourrait parler presque d'écuménisme avant l'heure.
Oui, bien qu'il y ait eu des tensions, mais effectivement, c'est un lieu où les communautés ont vécu côte à côte et ont collaboré d'une certaine manière.
On parlera d'aujourd'hui peut-être un peu plus tard, mais les choses continuent, s'élargissent.
Le troisième point de rencontre, c'est très récent, c'est un culte de commémoration qui a eu lieu le 29 mai à Zurich, dans l'église où Zwingli a été pasteur, où Zwingli disons, parlé contre les anabaptistes, où il y a un accueil très chaleureux de l'église réformée de Zurich et du canton de Zurich, et puis des éléments œcuméniques que je peux détailler un peu plus tard.
On en reparlera, bien sûr, mais on pourrait évoquer presque une sorte de pardon,
un désir de réconciliation, de vivre ensemble autrement.
Alors on reviendra sur ce sujet. Je me tourne vers vous, Sébastien. Là, on parle de réforme radicale, c'est-à-dire un mouvement réformateur composé de nombreux courants protestants hétérogènes qui se sont développés donc en marge de la réforme protestante luthérienne et calviniste. Et puis donc dans cette diversité interne qui naît et se développe, toute cette mouvance que l'on appelle aujourd'hui plus généralement évangélique. Quels vont être les points communs d'abord, les grands axes spirituels qui fondent d'une certaine façon cette mouvance évangélique?
Alors, un des très nombreux aspects fascinants dans cette réforme radicale très composite, dont Neil Blow est le grand spécialiste, c'est qu'elle est basée sur l'association de convertis. Donc on n'est pas dans une communauté naturelle dans laquelle on est et on a forcément une identité qu'on va garder jusqu'à sa mort. Mais à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe dans la biographie de la personne qui fait qu'on se déclare chrétien, on entre dans la suivance de Jésus-Christ et on participe à une communauté croyante, de convertis. Alors ça paraît tout à fait banal quand on le dit aujourd'hui, parce que nous sommes au XXIe siècle, en 2025, et les associations où on se choisit entre soi, c'est tout à fait classique. Mais c'était complètement révolutionnaire à l'époque. À l'époque, nous vivions dans ce qu'on appelle une société d'ordre, où tout était déjà figé quasiment dès la naissance. Et cette révolution, parmi d'autres, que va apporter l'anabaptisme et plus globalement la réforme radicale, elle va ensuite développer, on va dire, des ondes de choc, finalement, hein, au fil des siècles, sans qu'il y ait forcément de filiation génétique. Mais en tout cas, d'un point de vue au minimum typologique, et parfois au-delà de cela, il va y avoir d'autres groupes protestants, d'autres groupes chrétiens qui vont emprunter ce chemin initié au départ par les anabaptistes. Et je donnerai qu'un exemple, mais qui est quand même un peu connu, puisque ce sont des églises aujourd'hui qui sont nombreuses, les églises baptistes. Les églises baptistes sont nées au début du XVIIe siècle à la rencontre de deux tendances. D'une part, la dissidence puritaine au Royaume-Uni et d'autre part l'anabaptisme. Et sans l'anabaptisme, il n'y aurait probablement pas aujourd'hui d'identité baptiste.
D'ailleurs, c'est vrai, je réagis à ce que vous disiez, aujourd'hui, quand on parle notamment de cet aspect du baptême sur confession de foi, donc à un âge qui permet de choisir, et quand on explique cela à des gens qui sont loin de la foi, pas en lien particulier en tout cas avec la croyance, souvent c'est quelque chose qui résonne positivement. On dit ça c'est bien de pouvoir choisir en fait, mais à l'époque c'était donc pas ça du tout.
Absolument, et d'une certaine façon, en étant un peu provoquant, hein, ouais. On pourrait dire que les anabaptistes ont eu raison trop tôt sur ce point. Ils ont devancé ce que l'âge des démocraties a mis en place bien plus tard.
Neil ?
Oui, effectivement, disons, depuis déjà avec Constantin, mais surtout Théodose, le christianisme est devenu une religion officielle, et il y a des liens très étroits entre pouvoir politique et Église. Et donc, c'était parfois donnant-donnant, et parfois conflictuel au courant, mais les premières réformes de Luther et de Zwingli étaient des réformes, disons, territoriales,
oui.
Où on ne pouvait pas imaginer qu'il y a une diversité religieuse au sein d'un territoire donné, sous l'égide de l'autorité politique. Et disons, au XVIe siècle, c'était inacceptable, et c'était, je dirais, une des raisons principales du rejet de la persécution.
Alors, on l'a compris, il y a aussi des divergences internes, et ça, dès le départ. Et en particulier, Sébastien, vous le développez sur le rapport à la cité, sur le rapport au monde, à la dimension politique aussi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les choses ?
Oui, alors dès l'origine, effectivement, de la réforme radicale, on observe une tension. Certains rebelles de l'Évangile entendent mettre en place une forme de cité de Dieu. Et il va y avoir des mouvements de ce type-là, notamment à Münster, des mouvements révolutionnaires, où on va chercher véritablement à prendre le pouvoir politique, à mettre en place une forme de cité de Dieu, hein, régulée par l'Évangile tel qu'il était compris par ses acteurs.
Ça fait écho un peu à ce que vient de dire Neil, on est dans cette pensée d'une foi qui a le pouvoir.
Absolument. D'une foi comme pouvoir. Mais naturellement, et Neil Blow le dira encore une fois bien mieux que moi, beaucoup d'autres anabaptistes, et c'est la tendance qui va ensuite s'imposer au sein du courant anabaptiste, considèrent que, on n'impose pas la foi, c'est hors de question. La foi, elle se vit d'abord par l'exemple, et éventuellement invite ensuite d'autres personnes, d'autres communautés, d'autres individus à rejoindre ce mouvement-là, mais en aucun cas par la mise en place d'une cité politique. Et cette tension-là, on va la retrouver en fait à de multiples reprises. Alors, je ne vais pas donner trop d'exemples, mais par exemple, dans les colonies américaines au XVIIe siècle, vous avez d'un côté les puritains de Nouvelle-Angleterre, avec John Cotton, John Winthrop, qui souhaitent mettre en place une cité sur la colline, une cité puritaine, complètement régulée par l'Évangile, et qui fait à bien des égards penser à ce qu'on appellerait aujourd'hui une théocratie. En tout cas, il y a des accents théocrates très clair dans cette orientation-là. Mais vous avez une autre orientation par ailleurs, qui est défendue à l'époque par un certain Roger Williams, qui va quitter cette communauté puritaine et qui va fonder une nouvelle colonie qui s'appellera le Rhode Island. Il crée la ville de Providence, où là, on n'est pas du tout dans ce modèle-là. On n'est pas du tout dans la cité de Dieu, dans une cité normative qui impose la foi, qui punit les déviants. On est dans un espace ouvert où, en fait, chaque individu qui constitue la communauté peut, à sa manière, rencontrer ou comprendre comme il le souhaite la spiritualité et l'Évangile.
Plus une foi donc qui rayonne, qui témoigne, mais qui n'impose pas.
Voilà, c'est Dieu dans la cité et non pas la cité de Dieu.
Je vous propose une courte pause musicale qui nous amène à aujourd'hui. J'avais envie de jouer ce paradoxe par rapport à une histoire ancienne. Retrouver là un artiste ivoirien qui évoque pleinement le sujet dont nous parlons là. Il s'appelle K.S. Bloom, il fait du rap gospel. L'un de ses titres pour la petite histoire, qui s'appelle Enfant de Dieu, a enregistré 57 millions de vues sur YouTube, tout de même. Et ce matin, je vous propose d'entendre un titre qui est Disciple dans la ville.
Disciple dans la ville, disciple dans la ville, disciple dans la ville, disciple dans la ville. cherche à avoir ta place au paradis. Si déjà t'as peur de l'eau chaude, donc toi dans ta bouche c'est que l'ego. Oh t'es intelligent en parlant d'autre chose. Quand c'est un frère on dit bro, mais quand t'es deux frères te cherche on dit le bro bro. Si vous ne changez pas on va vous envahir comme ma famille Doula Cosmos. C'est le fils de son papa qui rappe. Les enfants c'est maintenant ils captent. L'évangile si t'as pas compris un c'est pas grave, y'en a jusqu'à quatre. Ce tatiste il prenait de la hauteur mais il n'aime pas Dieu, il a calé le moteur. Les gens ceux qui en comptaient pour payer mouton, ils sont devenus brouteurs. Disent dans la ville, j'ai gardé ses nénènes, ok. Disciple dans la ville parce que pendant qu'on est sauvé, on est toujours sur la terre. Donc cet album va aborder plusieurs thématiques de notre quotidien à son image pour dominer. Bon, pour le moment, on s'en jaille. Tout oui, ça c'est mal de vis. Sur les démons, j'invoque le paludisme. J'invoque le paludisme. T'auras pas le père si t'aimes pas le fils. T'aimes pas que je parle de ça. Tu veux pas que je te parle de grâce, d'amour, de vie éternelle. Bon, tu veux qu'on parle de choses. Calme dans mon bando, choses anciennes dans le rétro. Dans ma bulle, dans mon vaisseau. Pas de crise, pas de haine. C'est une façon de parler quand j'ai dit qu'on n'est pas les mêmes. Je t'aime, donc je t'invite dans son retour.
K.S. Bloom, disciple dans la ville, parce que pendant qu'on est sauvé, on est toujours sur la terre. Alors ça parlait assez vite, ça chante vite, mais voilà, il y a des choses qui sont dites là qui nous ramènent à ce que nous évoquions, Sébastien, Neil, l'engagement dans la cité, c'est capital dans l'expérience évangélique, même si la manière et les raisons qui font de cet engagement peuvent, on le comprend, être multiples et divers. Rayonner dans la ville. Neil.
Dans le premier anabaptisme, c'était quand même difficile.
Oui.
Il y avait une réaction au rejet des réformateurs. Et donc, on a proclamé dès 1527 qu'il y a une séparation entre l'Église et le monde. Mais le monde dont les anabaptistes se séparaient était un monde qui les cherchait, qui les chassait, qui les mettait à mort. Donc, je pense que c'était quelque part une stratégie de survie. Mais avec les décennies et les, disons, les générations, les siècles, cet aspect de séparation est devenu un élément identitaire de l'anabaptisme. Et donc, il a fallu des siècles pour, quelque part, pour en sortir, pour revenir dans la cité.
Et aujourd'hui, les évangéliques sont très présents, Sébastien, dans la ville, dans la cité, dans le monde.
Oui,
on en parle beaucoup.
Et en effet, et c'est une surprise pour les historiens du temps long. Parce que longtemps, le protestantisme français en particulier a été très très présent dans la ruralité et beaucoup moins présent dans les villes. Et en ce qui concerne le protestantisme dissident dans le monde anglo-saxon, il était également à l'écart de la cité. Hein. Il y avait une loi qui n'a été abrogée qu'au XIXe siècle, le Five Mile Act, qui empêchait en fait les églises dissidentes d'être à moins de 5 miles de n'importe quel village ou ville au Royaume-Uni. Donc effectivement, je rejoins Neil Blow sur ce point. Le rapport à la cité a longtemps été compliqué. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, et K.S. Bloom l'exprime remarquablement bien, aujourd'hui, la cité est le lieu d'élection de beaucoup d'églises évangéliques. Et c'est pas un hasard. Je regardais dernièrement, au début de ce mois de septembre 2025, il y a eu les résultats d'une enquête Santé publique France, faite par d'autres partenaires également, qui a sonné l'alarme, nous disant que 25% des jeunes aujourd'hui, entre 18 et 29 ans, en France, sont déprimés. Mmh. Alors, soit qu'ils l'affirment explicitement, ou en tout cas qu'ils en aient les symptômes. 25%. On était à 10% en 2005, lors des premières données de Santé publique France. Et alors, ce qui est intéressant aussi dans cette enquête, c'est que non seulement il y a une jeunesse qui souffre, mais il y a une sursouffrance en contexte urbain. Il y a encore plus de solitude et de souffrance en contexte urbain. Et dans ce contexte-là, et K.S. Bloom le dit très bien dans sa chanson, il parle de grâce, il parle d'amour, de refus de la haine, tous ces éléments-là renvoient à l'offre de salut qui est présentée dans les églises évangéliques et qui fournit, en fait, pour beaucoup d'individus en perte de sens, une famille de substitution dans la cité qui est tout sauf accueillante, bien souvent.
Allons sur les sujets qui dérangent un peu quand même aussi. Quand on parle des évangéliques, on parle souvent des trumpistes, on parle des supporters de Bolsonaro. Il y a une caricature qui se crée rapidement, mais on peut pas réduire les évangéliques à ça.
Non, mais c'est une vraie question. Ouais. C'est une vraie question qui rejoint cette tension qui a travaillé la réforme radicale au début, hein, Dieu dans la cité ou la cité de Dieu, qu'on retrouve au fil des siècles. On pourrait aussi parler d'un côté des piétistes qui sont pour la réforme du cœur en contexte luthérien, et Cromwell et les têtes rondes, les dissidents, qui là sont plus dans une optique qui nous fait penser à la théocratie. Donc cette tension-là, elle traverse l'histoire évangélique et on la retrouve bien sûr aujourd'hui dans un contexte de crise mondiale, hein, où un certain nombre de solidarités internationales se défendent, fond, où le néolibéralisme rêve d'un modèle idéal où chaque individu finalement est tout seul devant son écran et le plus possible désocialisé des communautés fraternelles. Et dans ce contexte-là, ce contexte de grande tension, eh bien, il y a des phénomènes de polarisation. Et les églises ne sont pas à l'abri de discours très polarisés, de discours offensifs. Et cette option de la cité de Dieu, elle est toujours présente aujourd'hui, en effet. Et le courant nationaliste chrétien très actif aux États-Unis en est un exemple, avec toutes les dérives qu'on peut imaginer.
Neil, nous parlons là de l'époque présente. Vous avez tout à l'heure parlé d'un moment important dans l'anabaptisme, ce changement qui s'opère ces dernières années sur la question des relations avec les autres églises, notamment catholiques, luthéro-réformées. Vous pouvez nous en dire un mot ?
Donc ces initiatives de décuménisme, donc les Mennonites entrent peut-être un peu tardivement dans ce domaine. Mais c'était grâce à notre instance mondiale, donc qui s'appelle la Conférence Mennonite mondiale, qu'il y a eu depuis une trentaine d'années des dialogues avec d'autres confessions chrétiennes, dont les baptistes, mais je dirais peut-être les plus importants étaient avec les catholiques à la fin du 20e, début 21e siècle, ensuite avec les luthériens. Et dans ces deux cas, il y a eu un essai de démêler l'histoire compliquée, des demandes de pardon, d'acceptation de pardon. Il y a eu des conversations trilatérales sur le baptême entre mennonites catholiques et luthériens. Je dirais que c'est peut-être aller le plus loin sur le plan de la théologie, sur un point qui divise encore, et encore plus récemment avec la communion des églises réformées mondiales. Et là, ça s'est manifesté à Zurich il y a quelques mois.
Comment voyez-vous les choses tous les deux à court et moyen terme en ce qui concerne le protestantisme dans son ensemble et en particulier en France, puisque c'est là que nous sommes, luthéro-réformés, évangéliques, chacun dans leur diversité respective. Il y a des articles actuellement, des discussions qui naissent sur faut-il rester ensemble ? Est-ce qu'on est tous protestants ou pas ? Enfin voilà, des choses qui peuvent un peu déranger. Comment vous voyez ces choses-là ?
Ce sont des réalités de la vie protestante en France. Ouais. Et justement, vous mentionnez des articles de réforme ces dernières semaines où on pose ces questions. Et je crois que c'est des véritables questions. Moi, je dirais que la Fédération protestante de France et le Conseil national des évangéliques de France cherchent à rassembler le monde protestant autant que possible. C'est difficile. Mais je crois que pour moi, c'est le chemin à suivre. Hein. Mais ça ne veut pas dire que c'est un chemin facile et que ça se passera facilement.
Alors, les chemins que le texte biblique nous propose, généralement, sont rarement des chemins faciles, si j'ose dire. Sébastien.
Oui, alors je crois que le protestantisme français a la chance aujourd'hui de traverser une crise de croissance. Ouais. C'est pas le cas de tous les acteurs religieux du pays, mais quand on regarde, par exemple, les données de l'enquête, la dernière enquête IFOP, 2024, on s'aperçoit que le protestantisme se porte bien, qu'il y a une surpratique au niveau des jeunes, qu'il y a aussi beaucoup d'échanges entre églises. Alors certes, il y a des tensions, mais ces tensions ne sont pas neuves. Historiquement, il y en a eu beaucoup et souvent bien plus graves que celles que le protestantisme français traverse aujourd'hui. Alors cela dit, évidemment, ça n'empêche pas que pour les institutions actuellement en charge de la communion protestante, c'est un vrai défi, c'est compliqué. Neil Blow vient de mentionner le CNEF et la Fédération protestante de France. Ce sont deux institutions qui cherchent effectivement à mettre en musique, à rassembler, qui ont peut-être des difficultés sur certains plans. Bon, vous évoquiez tout à l'heure les défis. Je pense qu'un des grands défis, c'est la fracture nord-sud et la question postcoloniale. Et je crois que là-dessus, il y a encore un logiciel à mettre à jour, aussi bien au sein de la Fédération protestante de France que du CNEF, parce qu'on ne peut pas indéfiniment regarder de haut les églises enrichies par les apports démographiques venus du Sud. Ces églises sont partie prenante aujourd'hui du christianisme européen, du christianisme du Nord. Elles en sont même parfois la force la plus dynamique. Et donc sortir d'un certain regard un peu paternaliste, je crois que c'est un grand défi aujourd'hui pour toutes les instances protestantes, hein, que ce soit FPF ou CNEF. Il me semble que c'est une des questions clés pour les années à venir.
Je suis d'accord, j'y reviendrai, mais je dirais que le christianisme en France est minoritaire. Et pour les évangéliques, ça nous aide à éviter le désir de dominer. Et ça les distingue de certains évangéliques américains. Et puis, le fait d'être minoritaire, je crois, permet des relations qui n'étaient pas possibles dans le passé. Hein. Ça, c'est une chose. Pour les questions du Sud global, moi, je dirais que si on gère ça bien, les églises peuvent devenir de véritables lieux de, disons, d'antiracisme et de réconciliation, si c'est bien géré. Moi, j'ai vécu dans deux églises mennonites multiculturelles en région parisienne, où le ni juif ni grec essaie de devenir ni blanc ni noir. Et on parle ouvertement des expériences du colonialisme et on fait des choses ensemble. Et je crois que c'est une chance à ne pas rater. Mais c'est pas évident pour tout le monde. C'est pas évident pour tout le monde.
Eh bien, merci à tous les deux. Je rappelle que nous sommes à la bergerie de l'Assemblée du Désert. En fond sonore, les répétitions. Nous sommes le samedi après-midi. Demain a lieu cette assemblée et donc on entendait au loin la chorale répétée. Je vous remercie Sébastien Fatt, Neil Blau pour vos apports de ce matin, mais ici aussi à cette assemblée du désert. Vous avez écrit tous les deux pas mal de livres. Je recommande à nos auditeurs d'aller voir sur Internet. Vous allez trouver toutes sortes de choses, du ghetto au réseau le protestantisme évangélique français chez Labor et Fides. Pour vous Sébastien, un livre avec Jean-Paul Willem également, La Nouvelle France Protestante. Je pense aussi à un livre autour des États-Unis, Dieu bénisse l'Amérique. Du côté de Neil Blau, il y a également Christologie anabaptiste chez Labor et Fides, Les Révoltés de l'Évangile, le cas de Balthazar Meyer au CERF, L'Évangile comme récit de paix chez Excelsis. Enfin voilà, il y a pas mal de choses et je crois que tous les deux, vous travaillez aussi sur des livres à venir. Donc voilà, on retrouve tout ça facilement sur Internet. Et puisque je parlais à l'instant de livres, j'aimerais en signaler un qui se voit aussi accompagné d'une exposition, puisqu'il s'agit de photographies, une croix sur le treillis de Karine Sicard-Bouvatier aux éditions Olivetan, du gendarme au marin, du chasseur alpin au légionnaire. Les militaires sont accompagnés par des aumôniers. Et donc, à l'aide de nombreuses photos et de textes brefs, ce livre nous fait rencontrer 11 aumôniers protestants aux armées françaises, au cœur de leur métier si peu connu. Un livre à paraître le 2 octobre, mais actuellement aussi sous forme d'exposition au cloître des Billettes, 24 rue des Archives à Paris, jusqu'au 21 septembre. Il vous reste donc une semaine pour la visiter, profitez-en. Et l'on se sépare avec un peu d'Atoile à la gloire en fond sonore, mais surtout avec une musique en écho au dialogue entamé aujourd'hui, en nous immergeant dans l'une de ces grandes et fameuses communautés évangéliques de région parisienne. On est à Créteil, l'église Emelka, avec un chant de louange qui s'appelle « La bonté de Dieu ». On aurait pu citer d'ailleurs aussi votre livre sur les méga church, Sébastien Fatt. Merci à tous les deux et au revoir.
Merci.
Au revoir. Merci.
C'était Solae, le rendez-vous protestant sur France Culture, proposé par la Fédération protestante de France, présenté par Jean-Luc Gadreau, réalisé à Paris par Thomas Jost, avec Florent Bujon à la prise de son dans la bergerie du Massoubéran à Mialet. Cette émission est à réécouter cette semaine sur le site protestantpluriel.org, à tout moment sur celui de France Culture ou en podcast au moyen de l'application Radio France. Nous nous retrouvons dimanche à 8h30 et je recevrai Clément Blanc, auteur du livre Aimé dans un monde en crise, la foi chrétienne à l'épreuve des défis environnementaux. Mais à suivre tout de suite sur France Culture, les informations. Et puis Talmudique, présenté par Marc-Alain Wachnin. Bon dimanche à toutes et à tous. Je
traverse le feu. Tu es mon guide, tu restes au plus près de moi. J'ai compris qui tu étais, mon père et mon ami. J'ai découvert combien mon